सदके कलंदर सुंद जिए थी प्यारा तुझे सदके कलंदर जिए जिए लाल कलंदर सुन शहबाज कलंदर जिए जिए लाल कलंदर सुन शहबाज कलंदर
Ça devient une habitude dans l'Ours et la Carotte. Chaque année, au printemps, j'aime bien vous faire découvrir une aventure de pépiniériste, une aventure de personne qui fait les choses bien pour nous proposer des choses bien pour nos jardins. Et cette semaine, j'en ai pour notre première émission en Gascogne. On commence par une pépinière qui s'appelle Mauvaise Graine. Mais cette mauvaise graine fait pousser de belles plantes. Et j'ai rendez-vous avec Olivier et Malvina. Bonjour.
Salut.
C'est vraiment un endroit, le panneau pour venir vous voir, c'est fait maison. On est vraiment ici sur de l'artisanal, sur du pur artisanal. On a deux tunnels tout simples et là-dedans, il y a plein de vie, il y a plein de pots et des pots que vous faites, surtout toi Olivier, que vous faites tous les deux.
Voilà, donc cette aventure, ça a commencé il y a 6 ans. On a acheté un terrain parce qu'il y avait un enfant qui voulait aller à l'école. Donc on s'est posé dans ce petit village et puis on est arrivé sur ce terrain, il n'y avait rien. Donc petit à petit, j'ai construit une première serre, commencé avec une mini-serre derrière. Là, une deuxième serre un peu plus grande et après, un an après, une troisième serre. Et maintenant, voilà, j'arrive à produire ce que je veux dans mon espace.
Alors ce que tu veux, c'est intéressant parce que ce qui m'a attiré ici, c'est que je ne te connaissais pas, je suis pas d'ici, mais ce qui m'a attiré, c'est quand j'ai vu, je cherchais des pépinéristes dans le coin, comme je savais que je venais par ici, j'ai vu que y a un message assez militant qui est vraiment, tu travailles à partir de graines et tu travailles à partir de graines reproductibles. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Alors oui, ce combat, c'est tout récent, on va dire, ça fait peut-être une vingtaine d'années, que les gros semenciers s'intéressent à la graine. Et pas que la graine pour les agriculteurs industriels, on va dire, aussi pour les particuliers. Donc petit à petit, ils arrivaient à mettre des brevets sur des variétés qu'ils créent eux-mêmes et imposer cette variété sur le marché de manière à ce que les anciennes variétés disparaissent petit à petit.
Voire même les faire disparaître en les faisant enlever du catalogue officiel.
Ça oui, ça, y a des politiques qui sont grassement rémunérées pour faire passer tout ça. Donc voilà, ils arrivent assez facilement à imposer leurs lois qui nous sont imposées à nous ensuite. Donc voilà, il y a un petit côté militant pour garder ce patrimoine. Déjà, ça, on peut appeler ça un patrimoine quoi, qui est très important parce que c'est des graines qui ont été reproduites depuis des générations, qui nous ont nourris. Et ce qu'on nous propose là maintenant, c'est d'aller dans le commerce pour racheter sa graine qui, elle, sera pas reproductible, donc que vous devrez racheter tous les ans. Et sans savoir aussi vraiment comment c'est fait, d'où ça vient, si ça n'a pas été un peu transformé.
Alors quel est l'avantage des deux ? Parce que tu as déjà dû essayer de faire pousser des graines classiques et des graines reproductibles ou dont tu n'as jamais essayé finalement ?
Non, avant de commencer cette aventure, nous on était sur la route, donc c'était plutôt les saisons, les voyages. Donc on s'est posé ici, je voulais faire une activité qui était à peu près en accord avec mes convictions. Donc j'ai trouvé...
C'était quoi tes convictions à la base ?
Par rapport à la pépinière, c'est vraiment d'avoir une activité qui pèse pas sur la planète, qui pèse pas sur le commun, quoi, qui va vers le bon, quoi.
Et alors donc, ces graines, tu as planté les deux espèces de graines ou directement tu n'as planté que du reproductible dès le départ ?
Alors j'ai directement commencé avec du reproductible, j'ai pas cherché à comprendre l'hybride, après il y a pas mal de gens qui jurent peu que par l'hybride, même en bio, parce que évidemment il y a une régularité, il y a une...
une homogénéité, en fait.
Une homogénéité, une régularité, et il y a une production des fois qui est un peu supérieure. Mais c'est... Après, il y a aussi des débats sur les qualités nutritionnelles de ces fruits, qui ne sont pas forcément aussi bien structurés que les fruits de variétés anciennes qui sont reproduits tout le temps.
Pourquoi ? Alors on le sait parce que quand les semenciers travaillent sur des nouvelles espèces, ils vont travailler sur le fait qu'elle va se conserver mieux dans les frigos. C'est ce genre de choses qui est en... Ça, c'est ce qu'on connaît pour la tomate en particulier.
Oui, pour la tomate qu'on vend en supermarché, c'est une tomate qui a été calibrée. Donc on sait qu'il y en a tant qui rentrent dans une caisse, qui résiste au choc, qui a une peau qui n'est pas trop grosse, pas trop épaisse parce que les gens n'aiment pas. Le goût, en fait, au final, on s'en fout. Parce que les gens, ils l'ont acheté.
Et la nutrition, encore moins.
Et la nutrition, oui, on ne sait vraiment pas ce qu'il y a dedans. Quoi. Donc, oui, faire des analyses, ce serait pas mal, mais ça, voilà, j'aimerais bien en faire un jour. Après, j'ai déjà vu un reportage qui disait que voilà, les analyses avaient été faites et que les résultats étaient sans appel. Les variétés anciennes, c'était beaucoup bien meilleur en vitamines, en phénol, en tout ce qui nous fait vivre quoi, au final.
Et pour avoir autant de nutriments, souvent, il faut manger 3, 4, 5 de nouvelles variétés par rapport à une...
S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'était Cyril Lignac qui avait fait des analyses sur la bouffe dans les cantines. Les courgettes, c'était comme si tu buvais de l'eau, au final. Parce que c'est de la courgette industrielle, produite en masse, à partir de variétés hybrides aussi, qui produisent beaucoup. Voilà.
Alors qu'est-ce que tu conseilles aux gens de mettre, alors là on a parlé des tomates, tu en fais, elles sont là, on est au début du printemps, donc elles sont sous serre, tu vas bientôt pouvoir les vendre aux gens, mais enfin il faudrait peut-être, selon les régions, attendre avant de les planter en pleine terre peut-être quand même.
Ouais. Vaut mieux attendre, oui, là pour l'instant, la petite gelée le matin, donc la tomate elle n'aime pas en dessous de 15 degrés la nuit, voilà, il faut, généralement on dit les seins de glace, après maintenant... Des fois au mois d'avril on arrive à début avril on pourrait les planter, il y a peu de gelée, mais des fois il est arrivé il y a une dizaine d'années qu'il a neigé le 5 mai quoi.
Alors qu'est-ce que toi tu fais planter? Bon, les tomates ça c'est le coup classique, mais en général quand on rentre dans cette aventure des graines anciennes, on est aussi souvent sur le légume ancien, celui qui est un peu oublié. T'es là-dessus toi ou pas du tout?
Pas forcément, non. Sur mes variétés, surtout sur les variétés qui sont reconnues comme productives et qui font des beaux fruits qui peuvent se reproduire. Voilà. Après,
qu'est-ce que tu fais à part les tomates ici?
Alors, tout ce qui est potager, je fais pas mal d'aromatiques aussi différentes. Pour les goûts, il y a pas mal de goûts de senteurs. Oh, oui. Voilà, tiens, je fais de l'artémisia.
Voilà, l'artémisia, tout le monde n'en a pas dans son jardin. C'est quoi de l'artémisia?
L'artémisia, c'est une plante, l'artémisia annua, c'est une plante assez puissante qu'il ne faut pas trop non plus en abuser, mais qui soigne tout ce qui est maladie de virus, quoi. Tout ce qui...
D'accord.
Voilà. Donc pendant le Covid, j'ai eu des ventes d'artémisia comme jamais, quoi.
Donc là, c'est des sauges, c'est ça?
Ça, c'est sauge officinale, on a de la nette, là, il y a des céleri. Là, des petits persils qui sont en retard.
Ça, c'est pas du céleri, ça, c'est des...
Ça, c'est des courgettes que j'ai fait pour les gens en serre, là, qui sont déjà bien prêtes. Que du coup, ça, je vais en planter aussi une dizaine pour faire mes graines pour l'an prochain.
Oui, en fait, dans ta production, tu en gardes toujours un peu pour faire tes graines pour l'année après.
Oui, dans ma production, il y a pas mal de variétés que j'essaye de reproduire moi-même. Après, il faut faire attention au croisement. Donc, vu que mes plantes que je vends, je ne vois pas le fruit chez les gens, je veux être sûr. Et donc, il y a beaucoup de variétés quand même que j'achète chez le semencier qui m'assure une régularité. Quoi.
Alors, ton semencier à toi, c'est...
Moi, j'achète beaucoup chez Biogerme. Après, il y a aussi Symbio. Après, il y en a plein, des petits semenciers.
La ferme de Sainte-Marthe?
Non, pas vraiment. La ferme de Sainte-Marthe, je connais aussi. Ils font des choses bien, mais après, ils ne vendent pas en mode maraîcher. Quoi.
C'est pour l'individuel.
C'est que du détail. Quoi.
Donc, c'est un peu plus cher. Ce serait trop cher pour toi?
Ce serait un peu cher, oui, pour les mêmes choses. Ah. Quoi.
Ça, c'est quoi? Ça, c'est des betteraves? Non, je dis conneries.
Ça, c'est de la coriandre.
D'accord.
Elle a rougi parce qu'elle a une petite fin, là, je pense.
D'accord.
Ouais, il faudrait la planter.
C'est quoi? C'est des fins d'azote, là, quand on voit souvent les feuilles?
Tout ça aussi, c'est des fois un excès d'eau.
D'accord.
Qui peut faire ça. Petit chaud.
Ça, c'est quoi?
Ça, c'est du périlla vert.
C'est quoi ça?
C'est une plante, c'est le chiseau. Je sais pas, c'est plus connu sous le nom de chiseau. C'est une plante aromatique qu'on utilise beaucoup dans les pays asiatiques. Ça a vraiment un goût spécial entre le cumin et c'est très bon quoi. Après, très bon pour la santé aussi.
Ça, ce sont des artichauts?
Alors, les artichauts, non, j'achète les graines pour l'instant.
D'accord.
Là, j'en ai planté une dizaine dans le fond du jardin là-bas pour la semence. Et oui, je vais me laisser monter en fleurs et normalement, j'ai les graines dans le capitule.
Mais de toute façon, l'artichaut, quand on le plante, il se divise et il reste en place. On a besoin que d'acheter un artichaut et normalement, on le garde pour 10 ans, on le divise.
On peut le diviser, ouais, l'artichaut, ouais, dès qu'au printemps, quand ça ressort, une fois qu'il a donné, il faut tout couper. Après, ça ressort, on peut le diviser en 3-4. Et comme ça, oui, multiplier ces artichauts d'année en année. Quoi. Et ça se garde, il y a des gens qui les gardent des années et des années. Voilà, ensuite, les premiers basiliques. Là, les gens, ils attendent.
Pour les mettre avec les tomates.
On m'en demande tous les marchés. Et non, c'est pas encore. C'est pour qu'ils le perdent, ouais, ça sert à rien. Ouais. Là, on a du fenouil bulbe, fenouil doux de Florence. Là, c'est des tomates qu'on a mis en gros pot, des tomates cerises pour les gens qui ont des apparts, qui veulent mettre ça sur le balcon. Ensuite, c'est quoi? De la monarde citronnée.
C'est quoi la monarde citronnée?
Ça fait des belles fleurs et c'est un goût un peu citronné. Quoi. Après, surtout pour la fleur, c'est joli pour la fleur. Ouais.
D'accord. Très bien. pour ceux qui veulent faire de l'alcool.
Alors ça, il faut le distiller après. Mais il y a plein de choses à faire avec l'absinthe.
Ah ouais,
quoi. On peut la mettre dans des plats, on peut faire du thé avec aussi.
D'accord.
Ça se fait beaucoup au Maroc. Il y a aussi, c'est un très bon insectifuge.
Okay.
Donc un petit purin d'absinthe et hop, on fait partir les pucerons. Voilà.
Super. On va faire une petite pause musicale. Et qu'est-ce que tu as envie d'écouter?
Qu'est-ce que j'aimerais écouter? Un Beastie Boys, t'as ça?
On peut mettre ça.
Allez.
Nous sommes de retour en Gascogne, dans le près de la Lèze. C'est une rivière, un affluent de la Garonne, je crois. C'est ça, c'est le Lèze.
La Lèze. La Lèze.
Ouais. Et donc, on est avec Olivier Malvina dans les mauvaises graines, dans les très bonnes graines reproductibles, donc chez ce pépiniériste qui ne propose que des plantes issues de graines reproductibles, non OGM,
non hybride.
Non hybride, voilà. C'est le terme. Tu travailles évidemment, sinon je ne serais pas venu, en bio. Alors pour toi, ça consiste en quoi travailler en bio? C'est quoi la philosophie? Et dans la pratique, ça consiste en quoi?
Alors pour moi, ça allait de soi de travailler en bio déjà, quoi. Ça, c'est travailler un peu dans le respect de la nature. Voilà, j'utilise toujours du plastique pour le terreau et pour les pots. Et bon, de moins en moins, après, je suis passé à la motte. Donc les mottes, c'est des carrés de terre compressés. Ça me permet d'économiser beaucoup de plastique. C'est que du plastique réutilisable, quoi. Donc voilà, le bio, ben oui, ça va de soi maintenant à cette période, quoi. On peut plus penser autrement, quoi, je pense.
Quand on pense à sa santé et à celle à qui on vend les plants.
Oui, quand on lance une activité, maintenant, faut voir l'impact qu'on a sur l'environnement, quoi.
Il y en a qui s'en fichent complètement.
Il y en a toujours qui s'en fichent complètement, même c'est à la mode de plus en plus, on dirait, quoi. Mais bon, c'est peut-être la manière de fermer les yeux et de dire qu'il se passe rien, quoi.
Et alors, toi, tes plantes, tu leur fais quoi ? L'engrais, par exemple, qu'il faut quand même, quand on a des cultures comme ça, il y a quand même des ravageurs, il y a quand même des maladies, des champignons en général, des choses comme ça. Comment tu règles ça, toi ?
Alors, j'utilise au minimum de produits. Après, des fois, j'ai un produit anti-puceron utilisable en agriculture biologique. Mais j'utilise vraiment au minimum, quoi. Après, j'essaye de faire quelques purins pour prévenir.
Alors les purins, on va en parler un petit peu, ça aussi c'est un autre combat, c'est là aussi un combat qu'ont mené beaucoup de bio à l'époque. L'ours et la carotte, on avait été sur le combat du purin d'ortie, c'était les grosses firmes encore une fois qui voulaient empêcher de partager et d'utiliser ces recettes qui se font en général à partir de plantes, c'est pas du purin animal, c'est de la macération de certaines plantes qui vont avoir des propriétés pharmacologiques sur les plantes. Par exemple, on va mettre de l'ortie qui va permettre d'avoir de l'azote dans le sol, aux apports de l'azote. Qu'est-ce qu'on a ? On a plein d'autres recettes comme ça. La prêle contre les maladies champignons.
Oui, la prêle, ça apporte des minéraux, ça, oui, contre les champignons, les parasites. Après, on peut faire l'absinthe que je t'ai dit tout à l'heure, là, du coup, qui permet de faire un antipuceron assez puissant.
Et tu le fais, ça ? Parce que moi, j'avais fait antipuceron, j'avais fait avec de l'ail, je crois.
Il y a pas mal de choses, ouais, antipuceron. Bon, le mieux antipuceron, c'est le préventif, quoi. Donc il faut le passer avant. Par exemple, on peut faire un petit purin de tomate, faire macérer des tomates pendant 3-4 jours à 20 degrés. Pulvériser ça surtout sur les poivrons, les aubergines qui sont plus sensibles. Et ça permet de faire un truc préventif. Bon, ça sent un peu mauvais, mais du coup, ça éloigne les pucerons. Peut-être qu'ils ont aussi l'odorat.
Et c'est pas toxique ? Contrairement aux produits qu'on peut trouver même pour l'agriculture biologique dans le commerce.
Bah, tu disais tout à l'heure oui, qu'ils ont fait un combat contre le purin d'ortie, sauf que maintenant dans tous les commerces on trouve du purin d'ortie vendu à prix d'or. Vraiment c'est hallucinant le prix où ils le vendent au litre, alors qu'on peut le faire soi-même dans un fossé.
Et il y a des livres pour ça, pour apprendre à le faire avec toutes les recettes, toutes les utilisations. Oui. Et le but étant d'être autonome, ça c'est un autre de tes combats.
Alors moi, ça a toujours été toute ma vie d'être autonome et d'être libre de mes choix. La liberté, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc voilà, moi j'ai toujours fonctionné on va dire en mode anarchie, en respectant toujours les autres, mais voilà, en faisant un maximum que je peux faire moi-même. Et voilà.
Sur les associations de plantes entre elles, est-ce qu'il y a des choses que tu fais ? Il y a des plantes que tu ne mets pas à côté d'autres ? Est-ce que tu as vu des associations de cohabitation qui n'allaient pas ?
Alors non, je ne suis pas vraiment là-dessus. Moi. Il y a tout qui bouge un petit peu dans les serres tout le temps. Donc moi, c'est surtout les gastéropodes quoi, que j'évite. Et après, non, le temps de les faire grandir. Après, dans le jardin, on peut associer quelques plantes. Par exemple, je sais que le persil peut s'associer au poireau. Ça évite la mouche, des trucs comme ça. Après, moi, je suis horticulteur. Donc le maraîchage, c'est un autre métier. Je plante un petit peu dans mon jardin, mais moi, quand je dois planter, y a mon jardin, il y a de l'herbe qui fait un mètre. Et voilà, moi, je plante tout le temps en juin, en retard par rapport à tout le monde.
Les cordonniers les plus mal chaussés.
Voilà, on peut dire ça. Ouais. Là-dessus, c'est vraiment comme ça. Ici, un jour, il faudrait que j'arrive à faire les choses.
Alors, tu disais les gastéropodes, tu t'en débarrasses comment des escargots et des limaces ?
Alors ça, j'ai trouvé, c'est l'orthophosphate de fer. Qui est assez efficace parce qu'après...
Ça tu l'achètes, ça c'est pas de l'autonomie.
Non, ça je l'achète quoi, parce que sinon j'ai essayé plein de choses, mais non, il passe quand même. La sang, les cheveux, la bière, ça les attire, c'est pas mal, mais au final on en a plus après. Ça les tue pas non plus, donc là ouais, je suis obligé moi, je peux pas me permettre, en plus c'est du tout petit plan, donc un escargot qui passe sur une plaque, il m'en bouffe une trentaine d'un coup. Donc je ne peux pas me permettre de perdre tout ça comme ça. Quoi. Là, ouais, là-dessus, j'ai pas encore trouvé autre chose.
Donc c'est les petits granulés, mais ils sont utilisables en agriculture biologique.
Voilà, c'est l'orthophosphate de fer. C'est du fer un peu modifié, mais il n'y a rien de vraiment chimique. Et oui, il faut faire ce qu'on a hein, pour l'instant.
Comment tu pourrais donner conseil aux auditeurs de... Alors voilà, il y a peu d'auditeurs qui habitent près de chez toi. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour repérer sur un marché, par exemple, un vrai, c'est comme l'histoire du bon et du mauvais chasseur, bon et un mauvais pépiniériste. En quoi c'est en général celui qui est le plus route, c'est qui a les moins belles étiquettes, qui va être celui qui va donner les plans les plus locaux.
trop.
Bah, vu le travail qu'on a, oui, je veux bien y croire, parce qu'on n'a pas le temps de faire des étiquettes. Moi, je les fais sur le marché à chaque fois. Mais après, c'est tout simple de reconnaître quelqu'un qui achète des plants. Les plants sont tous à la même hauteur, ils sont tous de la même couleur, ils sont tous dans les mêmes pots. Moi aussi, oui, j'ai pas dit, mais je récupère sur les marchés, je récupère tous les pots que je vends. Je dis aux gens de les ramener dans la limite de ce qu'ils peuvent. Et je réutilise tous les ans un maximum de pots. Donc au final, j'ai mes pots, moi, ils sont tous différents de couleurs. Après, les tailles, j'essaye de faire les mêmes quand même. Mais ça a tous des couleurs différentes. Voilà, donc...
Moi, ma pépiniériste, quand j'étais petit, quand on allait chercher avec mes parents, elle enlevait les plantes des pots et ouais. Elle enroulait dans du papier journal, dans le papier journal.
Oui, bah avant, sur les marchés, avant, il y a ouais. Tout qui se vendait en racines nues.
C'est ça.
Donc les tomates et les salades, ça se vendait en racines nues. Les poivrons, ça se vendait en racines nues. Ou sinon, en motte, là, comme je travaille, donc en motte, c'est du terreau pressé que je mouille et que je presse. Ensuite, je repique mon plant dans cette motte. Ça va grandir là-dedans. Et je vends aux gens juste la motte. Il n'y a aucun plastique, quoi. Donc je peux mettre dans du journal ou...
Ok, donc c'est ça la recette, c'est de regarder un petit peu les pots, de regarder s'il y a des codes barres sur les pots.
Alors, s'il y a des codes barres, et bien vous regardez le code barre et si c'est écrit 4, c'est Italie. Si c'est écrit 3, c'est France. Je crois Belgique, c'est 2, le premier chiffre. Mmh. Voilà, ça se reconnaît directement, oui.
Très bien. On n'a pas discuté avec Malvina un petit peu dans cette aventure parce qu'elle t'a suivi. En général, les aventures comme ça où on fait tout soi-même, où on est sur l'autonomie, en général, tout seul, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des périodes dures et on n'a pas forcément les moyens quand on se lance d'embaucher quelqu'un. Donc Malvina, toi, tu bosses à côté ?
Oui, moi, je travaille à côté en maison de retraite avec les personnes âgées plus essentiellement.
Et c'est toi qui, du coup, au début de l'activité, a fait bouillir la marmite pendant que l'activité se lançait petit
oui,
à petit. Bah
après, c'est un travail d'équipe. On se relaie quand la pépinière est calme, je travaille. Quand c'est la saison, j'arrête de travailler pour pouvoir aider ici et m'occuper de la maison, des enfants et faire la vente à domicile et tout ça.
Vous faites de la vente à domicile ?
Oui. Enfin, les clients viennent ici également à la pépinière. Et
je croyais que vous alliez chez... Quand tu me dis vente à domicile, comme tu m'as parlé de personnes âgées, j'imaginais que vous alliez chez les gens.
Non, du tout. Mais quand Olivier est sur les marchés, j'ai des clients aussi qui viennent ici. Donc du coup, puis moi quand je suis ici, je fais l'arrosage. Voilà, des petites choses à faire ici. Quoi.
Ça te plaît ? C'est ton choix aussi ?
Oui, c'est mon choix aussi. C'est vrai que cette aventure-là m'intéressait aussi. L'autonomie, vivre par soi-même, c'est quelque chose qui me tient à cœur également. La liberté aussi. Mais j'aime aussi les personnes âgées. Donc du coup, c'est bien, ça permet de faire les deux à la fois.
Tu pourrais même faire des ateliers jardinage.
J'ai animé une fois un atelier à la bibliothèque d'Oon. Voilà, et là, normalement, je dois le refaire là, cet été, là, le 24 mai, normalement.
Par contre, pour des gens qui ont aimé travailler, bouger en camion, là, du coup, le travail de la terre, c'est celui qui t'empêche de bouger.
Mais
ça a changé la vie de votre couple.
Ça a changé notre vie. Bon, après, les enfants aussi ont changé. Ça a changé. Si on s'est sédentarisé aussi, c'est pour permettre aux enfants de faire leur choix à eux et d'être scolarisés, d'avoir de pouvoir se faire leur petit monde à eux. Parce que nous, la vie nomade, c'était notre choix. Mais les enfants, eux, ont besoin de faire leur choix à eux. Donc, du coup, on s'est sédentarisé. Mais le fait de faire les marchés et en même temps. En fait, je ne fais pas la même chose toute l'année. Donc du coup, je retrouve un peu ma vie de saisonnière, on va dire.
De la diversité, que ça bouge et que ça change.
Et voilà, je ne fais pas tout le temps la même chose, je n'ai pas ma routine d'avoir le même boulot tout le temps, les mêmes responsables tout le temps.
Et sur quelqu'un qui voudrait s'installer, c'est-à-dire qui voudrait faire comme toi, se poser sur un terrain du coup agricole, ça c'est l'avantage, sur lequel avec une activité comme ça, celle-là, on peut vivre. Du moment qu'on fait tout bien pour les égouts et pour tout ça. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui voudraient s'installer en pépinière ?
Alors moi, ça a été, quand je me suis installé, je me suis dit, pendant 5 ans, je ferme les yeux et puis je vais tout droit. Donc ça a été beaucoup, beaucoup de travail, des années, au moins 2 ans sans vraiment bouger. En montant tout, aussi il faut beaucoup s'informer, lire, demander.
Tu n'avais pas de formation dans le domaine ?
Et non, j'ai pas de formation, non. J'ai pas quasiment rien planté avant. J'avais fait un petit potager une fois en été où on s'était posé au bord d'une rivière. Mais non, j'avais jamais. Et donc voilà, les plantes après c'est quand même assez logique. C'est...
La forme juridique, t'es installé sous quelle forme ?
Alors j'ai monté une entreprise, une EIRL, une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Et après, je me suis mis en cotisant solidaire, donc ça permet...
Ça, c'est cotisant solidaire, c'est le régime agricole.
Oui, c'est le régime à la MSA.